Bonjour et bienvenue sur le podcast Expat Mama Blog. Dans 3, 2, 1, on y va! Je reçois aujourd'hui sur le podcast Marie-France Bernard, une Québécoise qui est expatriée à, pardonnez ma prononciation, Guadalajara, au Mexique. Marie-France s'est expatriée après de nombreuses années de préparation avec son conjoint et un de ses fils. Elle nous raconte les défis rencontrés avant son aventure et tout au long de celle-ci. Comme quoi la vie d'expat est loin d'être un long fleuve tranquille, mais elle réserve de nombreuses surprises et en vaut ô combien la peine. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on reçoit Marie-France Bernard qui est une Québécoise expatriée au Mexique. Bonjour Marie-France!
Salut Dominique!
Comment vas-tu?
Moi je vais très bien, et toi?
Bien, super bien, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Ça fait plusieurs années qu'on est en contact virtuel.
Oui.
Puis enfin, on se voyait en vrai, si on veut, sur Zoom. Maintenant, pour faire l'enregistrement du podcast, c'était un grand plaisir pour moi.
Et moi également, je suis très honorée d'être une de tes invitées.
Bien, j'ai vraiment hâte que tu nous racontes ton expérience. Au vu des dernières années, on a parlé de différents aspects de ton expatriation parce qu'on se parlait avant même.
Oui.
Donc, on va commencer par le tout début. Raconte-moi qu'est-ce qui a semé l'idée chez toi de vivre l'expatriation.
En 2014, mon conjoint qui travaille pour le fédéral, pour le ministère des Affaires étrangères, a fait un posting de courte durée de 2 mois à Guadalajara, où on vit. Parce que dans son travail, il avait demandé de faire ce genre de posting-là. Et puis, on est venu le rejoindre, mon fils, mon plus jeune et moi, pour les 2 dernières semaines de son posting. Et puis, il a vraiment aimé beaucoup cette ville-là. Il se sentait super à l'aise. Puis, la langue espagnole, c'est une langue qu'on aime beaucoup. Puis, il est venu l'idée, parce que dans son travail, il y a comme 2 catégories de personnes qui font son travail. Il y en a une catégorie qui font de 4 ans en 4 ans, là, se promènent d'un pays à l'autre. Puis lui, c'est pas dans sa description là, de faire des postings à l'étranger. Mais c'était son rêve de toujours de faire un posting à l'étranger. Donc, ça commençait à mijoter comme ça dans son esprit. Puis, dans le fond, plus les années passaient, plus le plan devenait quelque chose de plus un projet qu'un rêve. Puis, tranquillement, il s'est fait des contacts. Il a noué des liens avec des personnes clés ici. Éventuellement, il s'est vraiment mérité de pouvoir venir ici. Là. Il a travaillé très fort pour pouvoir avoir la chance de venir faire un posting. Là. Je m'excuse pour le terme anglophone, là, mais pour venir faire un posting ici à l'étranger, mais sur un plus long terme.
Donc, comment tu vivais ça à travers toutes ces années-là? Lui, il préparait le terrain pour ça. Est-ce que c'était aussi un rêve pour toi de vivre ça?
Oui, parce que j'ai toujours aimé l'aventure, même si je suis une fille quand même qui est très près de ma famille. La famille, c'est quelque chose qui est super important. Puis je ne parle pas juste de la famille proche, la famille élargie. Je viens d'une famille où on se côtoie beaucoup, beaucoup, les oncles, les tantes, puis on est beaucoup, là, parce que la famille de ma mère, il était 13 enfants. Donc, on s'est toujours beaucoup côtoyés. Fait que de partir à l'étranger, ça voulait dire aussi quand même faire beaucoup moins de ce type de rencontres-là. Puis, je suis très, très près de mes parents, puis j'ai seulement qu'une sœur, puis c'est ça. Donc, je ne suis pas la fille à s'ennuyer nécessairement, mais j'ai besoin de voir mon monde pareil. Je suis bien attachée à mon monde.
Yeah, ouais.
Donc, c'est ça. Donc, oui, c'est quelque chose qui me tentait bien gros. Mais à l'époque, si on se reporte à 2014, il y avait 4 enfants à la maison. Fait que c'était pas quelque chose de trop pensable. Mais avec le temps, on savait que les enfants vieilliraient puis qu'il nous en resterait moins au bout de la ligne. Fait que ça serait quelque chose de plus pensable. Puis à cette époque-là, la mère de mon conjoint vivait aussi. Puis éventuellement, on a dû en prendre soin parce qu'elle est tombée malade et tout. Donc, la vie a fait que c'est devenu de plus en plus possible et puis de plus en plus concret.
Comme on dit, chaque chose en son temps, mais tu sais, vous avez dans le fond créé l'opportunité au fil du temps, ouais. Mais sans presse, sans se garrocher là, parce qu'il voulait absolument vivre une expérience.
Oui, c'est ça. Il a préparé le terrain de longue date.
Parfait. Ben, je pense que c'est mieux comme ça aussi. En fait, c'est mieux comme ça. Il peut y avoir des super belles expériences aussi qui arrivent plus rapidement, mais de cette façon-là, chaque roche est soulevée pour regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous, etc. Donc, ça permet une belle préparation.
Ouais.
Là, tu m'as parlé de ton approche par rapport à ton entourage, mais ton entourage par rapport à l'annonce au départ, comment ça s'est vécu?
Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit « Ouais, mais Marie-France, parce que c'est gros, ça. Ouais. » Puis ma mère, tu sais, c'est sûr qu'elle a une vision plus, je m'en allais dire objective, mais pas tant nécessairement, mais je veux dire, elle voyait ça d'une autre façon, parce que quand tu es dans le projet même, il y a peut-être des choses que tu ne vois pas autour, là. Par rapport à l'organisation, puis tout ce que ça peut impliquer, tout ça. Puis je suis une fille qui est quand même assez enthousiaste. Fait que ça peut m'arriver des fois de ne pas voir tout le portrait de la chose. Alors je l'entendais ce qu'elle me disait, mais en même temps, je voulais pas trop mettre l'accent là-dessus parce que je voulais pas que ça me freine par rapport à dire OK à cette expérience-là.
Oui, puis souvent aussi, on finit par trouver des solutions à tout ce qui va se présenter comme défi ou presque. Les enfants, de leur côté, comment ça a été? Est-ce qu'ils auraient voulu que ça arrive plus tôt pour venir avec vous? Est-ce qu'ils étaient contents de ne pas avoir à suivre? Comment ça s'est vécu?
En fait, je ne me rappelle plus en quelle année. On est allé à San Diego, puis quand on est revenu de là, on était tombés en amour avec San Diego, puis on s'imaginait vivre là. Puis j'avais dit ça un peu à la blague. Puis j'avais un fils à l'époque qui avait peut-être une dizaine d'années, puis s'était mis à pleurer. Mais, tu sais, c'est ça, on ne savait pas vraiment de quoi l'avenir serait fait, mais c'est toujours quelque chose qui m'a un petit peu tentée. Mais les enfants, en fait, ils étaient en garde partagée. Bien, j'ai deux de mes enfants qui étaient en garde partagée, donc ça n'aurait pas été quelque chose de possible de toute façon. Puis, la plus grande, la fille de mon conjoint, je pense qu'on n'en doit pas parler plus que ça. Puis notre plus jeune, ben lui, il a vraiment vécu toutes les étapes. Puis il était game, là, à ce moment-là. Là, il était. C'est sûr qu'éventuellement, là, comme présentement, il est adolescent, là, fait que c'est autre chose, mais quand on en parlait, là, il nous suivait là-dedans, lui. Là.
Puis à quel âge, lui?
Lui, présentement, il a 16 ans et demi.
OK, d'accord. Donc, c'est vraiment là, dans la fleur de l'adolescence que tout ça se passe.
C'est en plein ça. Puis chez les gars, c'est un peu plus tard parce que j'ai vécu l'adolescence de trois autres. Puis c'était plus dans les comme 14 ans, les filles, là, que c'était le gros de l'adolescence.
Ouais.
Mais mon garçon, ça a plus été comme dans la dernière année là, que les changements de tout type se sont passés.
On essaie de se comprendre puis de comprendre l'environnement en même temps.
C'est ça, c'est pas, puis c'est d'un ado à l'autre, c'est pas la même game. Fait que des fois, c'est pas toujours facile de comprendre, de les comprendre. Ouais. On veut les comprendre le mieux possible parce qu'on veut que ça soit le plus plaisant pour eux autres possible. Mais lui, dans le fond, quand il est arrivé ici, on est arrivé en juin 2021, il était super content. Enfin, je suis à Guade, mais éventuellement, il y a eu des changements au niveau psychologique qui ont fait que il n'est pas tant dans la game. Je pense qu'il vit vraiment au jour le jour. Puis lui, dans le fond, il a comme conservé son réseau d'amis au Québec.
Ouais.
Puis il est sociable là, à l'école, mais il n'y a pas de vie sociale en dehors de l'école. C'est comme s'il ne voulait pas nouer de liens qui, peut-être, selon lui, ne durerait pas. Parce qu'en fait, on devait être ici trois ans, mais à cause de la pandémie, le projet a été cancellé dans un premier temps. Puis ensuite, il a été réaccordé, mais on a perdu 6 mois de ce projet-là. Okay. Donc, pour lui, c'est clair que comme en août prochain, en principe, c'est le retour au Québec. Donc, je pense que lui, il regarde là. Puis je dis qu'il vit le moment présent, oui, mais en même temps, c'est comme il sait que le retour est telle date, puis il s'enligne un peu là, j'ai l'impression.
C'est un peu de s'intégrer, là, de vraiment s'intégrer comme si c'était sa nouvelle vie. Là. Il vit encore un voyage d'une certaine façon.
Malheureusement, c'est quelque chose que j'aurais vraiment souhaité qu'il profite plus du fait de cette expérience-là dans tout ce que ça a de beau par rapport à la langue, par rapport au niveau culturel. Dans le fond, sa vie, lui, c'est vraiment plus l'école. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas vraiment de vie sociale à côté. Il ne sort pas. Il fait ses devoirs. Quand il y a du temps libre, il dort. Mais je sais qu'à l'école, là, il y a des amis et tout. Là. Ça, je ne suis pas inquiète. Je suis rassurée là-dessus et qu'il y a des bons amis.
Est-ce qu'il va à l'école en espagnol?
Non, il va dans une école américaine. Donc, okay. Ça a été quelque chose d'un petit peu un petit défi là, quand même, parce que c'est pas notre langue, l'anglais. Puis, dans le fond, on a commencé au moins un an avant le départ, c'est pas avant, de lui faire qu'il y ait des cours là, sur Skype là, avec un professeur à l'étranger pour pouvoir se débrouiller plus en anglais. Ça a vraiment bien fonctionné. C'est sûr que c'est une autre paire de manches quand on dit que toute la journée, c'est en anglais, les cours, c'est en anglais. Déjà qu'il y a un niveau de difficulté avec les cours, mais quand tu rajoutes la langue, mais il a très bien relevé le défi. La première année a été plus difficile, malgré que dans l'ensemble, là, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Il ne se plaint pas là, qu'il doit comprendre toute la journée l'anglais. Là. C'est devenu quelque chose de tout à fait naturel. Là.
Donc, est-ce qu'il revient au Québec, au Cégep? C'est là qu'il va arriver ou en ce moment?
La chose, c'est que comme au Mexique, c'est le high school. Là, vu que, mais pas au Mexique, je m'excuse, là, mais c'est un American high school. C'est le système américain. Donc, c'est 6 ans, le high school. Puis là, présentement, il est en 5e année du high school. Fait qu'en principe, l'idéal, ce serait qu'il complète, qu'il fasse une année de plus ici pour que quand il revient au Canada, au Québec, en fait, il pourra aller directement à l'université.
OK.
Là, si on revient au mois d'août prochain, moi, présentement, là, j'ai des démarches à faire pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Mais je sais que présentement, il y a 2 ou 3 écoles au Québec qui offrent le high school. Donc, je dois un petit peu investiguer là, de ce côté-là pour voir là, comment ça va fonctionner. Mais ce qui n'aide pas, c'est qu'il n'y a aucune idée, lui, de qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Fait que c'est difficile un peu d'enligner, là.
Oui, puis c'est difficile de prendre des décisions à cet âge-là. Hein?
Mon Dieu, je comprends tellement. Je comprends tellement, c'est déjà difficile. Fait qu'en même temps, quand il y a un ajustement de ce type-là à faire, c'est encore plus complexe. Là.
Donc, normalement, vous devriez revenir au mois d'août, mais possiblement que ça pourrait être étendu un peu ou non.
C'est très possible. En fait, c'est mon conjoint qui souhaiterait vraiment que ça dure plus longtemps. Il fait des démarches présentement pour que ce soit le cas. Moi, j'avoue que je suis rendue là aussi. J'aurais pas pensé ça l'année passée. Mais là, présentement, c'est quelque chose que j'entrevois comme possible. Là. Puis même, je te dirais souhaitable.
Oui, c'est ça. Ben oui. Puis là, maintenant que vous êtes vous intégrez dans cette vie-là et tout ça, le temps passe. Puis on le voit plus autant comme un gros défi.
Non.
Mais justement, parlant de défis, parle-moi de tes défis. Là, OK, on va commencer au niveau professionnel.
Okay.
Donc, qu'est-ce que tu faisais au Québec avant de partir? Est-ce que tu travaillais? Qu'est-ce que tu faisais?
Oui. Moi, je travaillais dans un CLSC, je suis infirmière. Ça faisait 21 ans que je travaillais pour cet établissement, le C3S là, mon secteur. Ça fait 31 ans que j'étais infirmière. Puis, j'avais comme un peu été à la pêche quelques années avant pour m'informer si ce serait possible de prendre une année différée, puis une année sans solde. Une année différée, c'est une année où t'es moins payé, tu as été payé pour un certain pourcentage selon combien de temps ça va te prendre pour rembourser ce congé-là. Fait que si tu prends un an de congé, tu peux le rembourser sur 5 ans. Donc, les 4 prochaines années, tu vas être payé à 80% dans le fond, puis l'année que tu prends aussi. Là. C'est un peu ça l'idée. Puis, je voulais prendre une année sans solde, de ce qui aurait fait 2 ans. Fait qu'il m'aurait manqué 6 mois où j'aurais été au Québec sans eux. Donc, c'était ça le plan au départ, mais ça, c'était avant la pandémie, bien sûr.
Ouais.
Comme pour tous les projets de tout le monde sur la planète. Donc, quand est venu le temps de parler de ça pour vrai, que c'était vraiment rendu concret, je me suis fait dire non, tu n'auras pas de congé sans solde, puis tu n'auras pas de congé différé. Fait que si tu veux, s'il faut que tu t'en ailles, bien, tu vas falloir que tu démissionnes.
Okay.
Fait que ça voulait dire, c'est quand même un gros move, là, parce que quand tu démissionnes, tu coupes le lien d'emploi, tu perds toute ton ancienneté. Donc, supposons je revenais au Québec après, bien, je recommençais au bas de l'échelle, sur appel, alors que là, j'avais un poste stable en petite enfance, tu sais, avec l'ancienneté par rapport aux vacances et tout et tout. Donc, c'était quand même un pensez-y bien, oui et non, parce que rendu là, de toute façon, tout était en marche. La locomotive était en marche. Là, on ne pouvait pas arrêter le train comme ça. Donc, j'ai assumé, tu sais, c'est un deuil, c'est certain. Puis ensuite, ben, ça veut aussi dire qu'est-ce que tu fais au retour? Est-ce que tu reprends ou est-ce que ça s'arrête là, ta carrière? Parce que rendu à 31 ans, moi, je pouvais prendre ma retraite là, comme 3 ans et demi plus tard. Là.
Oh boy, OK. Donc, en plus, tu étais près de cette ligne-là.
Ouais. Fait que là, ben, c'était ça l'idée là, au niveau de l'emploi. Là. C'était ça le défi. Mais j'ai jamais regretté jusqu'à maintenant d'avoir dû faire ça. C'est sûr qu'il y a eu plein d'autres choses qui ont été un peu bousculées à cause de la COVID. Là. Il y a plein d'autres sujets qui ont été un peu un sujet d'inquiétude. Là. Mais disons que par rapport au défi, par rapport au travail, moi, c'était ça. Mais j'étais prête à appuyer mon conjoint. T'sais, comme j'ai dit, ce n'était pas une décision du jour au lendemain. Donc, c'était quand même quelque chose de réfléchi. Là.
Oui, puis tu sais, c'est une expérience.
Au départ, c'est ça, je m'attendais pas à pas reprendre mon emploi nécessairement au retour. Tu sais, je m'attendais à être de retour dans le réseau. C'est ça la différence. Excuse-moi.
Oui, puis tu sais, je veux dire, ça aurait été facilitateur au niveau aussi de la décision de partir et tout ça. Tu sais, tu pars avec un filet. Ouais. Là, ce filet-là, pouf, est parti, mais en même ouais. temps, au niveau de l'expérience de vie 1, de vivre sa vie, entre guillemets, si on veut, mm-hmm. mais aussi mm-hmm. L'expérience de la personne, ce que ça change en toi, puis ce que tu peux offrir comme employé éventuellement après avoir vécu ce genre d'expérience-là, quant à moi, c'est un gros plus aussi à considérer pour l'employeur.
Ben oui, tout à fait, mais d'un autre côté, c'est bizarre parce que ça m'a comme fait une libération du fait de couper le lien d'emploi. Ça m'a causé un petit peu d'insécurité sur le coup, mais après ça, je me suis comme sentie libre, je me suis comme sentie, ben, hey, je peux faire autre chose. Tu sais, je peux faire autre chose, il y a d'autres possibilités, il n'y a pas juste un trajet droit dans la vie où il n'y a pas de petits croches que tu peux prendre en passant. Parce que j'ai toujours un peu été comme ça, moi, le petit chemin droit, là. Mais là, c'était différent, mais c'est un peu le feeling comme. Je t'expliquerai, que je te dirais que quand tu es en train de déménager puis tout ton stock est dans le camion, mm-hmm. tu n'as pas d'attache nulle part, il y a comme un sentiment de liberté.
Ouais.
Ben, ouais. C'est le même sentiment de liberté par rapport à mon travail, par rapport à ma profession.
Oui, puis ce que je veux dire, c'est que tu n'as quand même pas perdu. Tu as encore ton diplôme, tu as encore tes 31 années d'expérience.
Exact.
Tu as encore tes années d'expérience d'expat. Tu as encore un bagage tellement oui. grand que. T'es juste pas attaché nulle part, là, mais ça veut pas dire que tu peux pas transposer tes bagages ailleurs, t'sais.
Exact. Ça l'élargit les horizons, mettons.
Ouais, ah ouais, c'est clair. Ben, en tout cas, je comprends tout à fait ton sentiment par rapport à la vie professionnelle. Puis là, t'as fait aussi là, allusion à, ben pas juste allusion, mais t'as parlé de la pandémie. Justement, là, t'as dit que ça a retardé le départ, mais aussi ça a fait que vous êtes aussi arrivé pendant la pandémie.
Oui. Bien, en fait, ce que ça fait, en fait, vu qu'on devait partir avant, mm-hmm. on a vendu la maison.
Ouais.
Si on était, en tout cas, c'est tout un contexte économique où les maisons se sont mises à monter, ouais. à monter de prix. Ouais. Donc, nous, dans le fond, on s'est en allé en location.
Ouais.
On a loué quelque chose pour le temps qu'on était comme en stand-by, si on veut. Mais pendant qu'on était en stand-by, on ne savait pas là, si c'était concrètement c'était pour repartir ou pas le projet. Puis, dans le fond, on est déménagé le 10 juillet 2020. Puis, mon conjoint a su, je crois, en octobre, que finalement, c'était vrai là, qu'on partait. Mais, tu sais, si on avait su ça, ben on aurait vendu la maison plus tard, puis on l'aurait vendu plus cher parce que le contexte économique avait changé et tout et tout.
Mais bon, encore là, le train était parti. Puis, dans le fond, oui, c'est ça, on est parti, on est arrivé ici en pandémie. Mais ici, je te dirais que c'est pas pareil parce que c'est un pays chaud.
Ouais.
Donc, il y avait moins de fermetures de tout.
Ouais.
La pandémie, je ne sais pas si c'était moins sévère ici ou encore que les vrais chiffres ne sont pas nécessairement dits par rapport au nombre de personnes atteintes et tout et tout. Mais ça, on sentait ça moins étouffant. Moins pire, parce que tout était quand même ouvert. Je pense que les restaurants ici ont fermé maximum 3 mois. Les gens ici étaient très, très disciplinés. Les gens dans la rue portaient leur masque. Puis, c'est encore le cas dans les autobus, dans les transports en commun, dans les taxis. Ça n'a jamais cessé à ce niveau-là. Mais je crois que c'est depuis le mois de... ça se peut que ce ne soit pas exact, là, depuis le mois de juin qu'on n'a plus besoin de porter le masque autrement que dans les transports en commun. Fait que je te dirais que moi, je l'ai trouvé moins pire ici, la pandémie, que quand on est parti.
Je pense que les règles au Québec ont été beaucoup plus sévères, solides, beaucoup plus de fermetures, beaucoup plus de les couvre-feux. Il y a eu tellement de fermetures, de toutes sortes d'affaires que... Oui, je veux dire, moi, cette lourdeur-là, je l'ai remarqué parce que à un moment donné, mais un peu plus tard dans l'histoire, là, il y a un an, je suis allée en voyage au Québec, alors que moi, je vais aux États-Unis, pour ceux qui arrivent sur le podcast. J'ai été frappée par à quel point là, les gens avaient des règles et les appliquaient. C'était assez incroyable. Là. Je veux dire, le fait que tout le monde entre dans le restaurant, se lave les mains, porte le masque, jusqu'à temps que tu sois assis à la table. C'est toutes ces petites choses-là, je ne voyais pas de cette façon-là aux États-Unis, puis ça m'a vraiment marqué à quel point.
Ah oui, hein? Il y avait comme plus de rigueur au Québec.
Oui,
mais je te dirais qu'eux autres l'ont commencé avant, ces règles-là. Tu sais, je veux dire, en tout cas, peut-être pour ça qu'il y avait moins de contagion.
C'est devenu naturel, tu sais. Mais en même temps, je pense aussi que le système de santé, c'est ce qu'ils pouvaient, tu sais, ils ne pouvaient pas supporter.
Non.
Et les gens agissent d'une autre façon non plus, tu sais, parce que c'est ça, c'était assez...
Effectivement. Puis je te dirais que pour moi, ça a quasiment été une libération aussi de sortir du système de la santé dans ce contexte-là, parce que je l'ai vécu aussi, là, travailler avec les conditions du COVID. C'était pas facile.
Ah non, puis ça doit être peu dire. Ça doit être quelque chose... c'est ça, je peux imaginer. Puis sinon, au niveau culturel, on parle en lien avec la pandémie, mais en général, qu'est-ce qui, d'après toi, sont les plus grandes différences culturelles du Mexique par rapport à chez nous?
Bien, tout d'abord, c'est sûr que la langue, l'apprentissage de la langue espagnole, moi, je trouve que c'est une langue super belle langue. Les gens, je trouve qu'ils sont très chaleureux. Je trouve que le fait qu'ils fassent toujours beau... qu'est-ce qui est plaisant, par exemple, c'est que là, je sais que je réponds peut-être pas tout à fait à ta question, mais je prends un petit détour. Exemple, on s'achète des plantes, des fleurs, bien, on n'a pas besoin de jeter ça rendu au bout de quelques mois parce que l'hiver s'en vient. Donc, nos fleurs, nos plantes sont toujours belles, sont toujours là. Il y a pas le fait de ne pas avoir d'hiver, c'est sûr que c'est... Je déteste pas l'hiver du tout, là, moi. Mais je veux dire, c'est plaisant quand même de... qu'il fasse toujours beau. Au niveau culturel, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à découvrir dans d'autres pays. Les gens qui viennent dans notre pays trouvent que c'est intéressant. Mais c'est sûr que pour nous autres ici, c'est nouveau. Guadeloupe, c'est la deuxième plus grande ville en importance au Mexique, après Mexico. C'est quand même une ville qui est en développement. Il y a une vie quand même sociale importante, beaucoup de restaurants, un centre-ville qui est quand même très vivant. Le dimanche, on peut aller faire du vélo sur quelques voies qui sont vraiment seulement couvertes au vélo, aux ceux qui font de la planche à roulettes, rollerblade, à pied, en trottinette, peu importe. C'est ouvert seulement aux gens là, qui ne sont pas en voiture. Pas de moto non plus, évidemment. Donc, tout le long de ce trajet-là, il y a du monde qui font du hula hoop. Il y a du monde qui danse sur des beats. Il y a des friperies, des petits marchés aux puces. C'est grouillant de vie. Là, tu peux t'arrêter partout, prendre un petit café. Puis ça dure de 8 h le matin à 2 h l'après-midi, tous les dimanches.
Ah, tu racontes ça, puis j'ai des images, là, on dirait que j'ai envie de prendre
l'avion. Ah, c'est vraiment, vraiment le fun.
L'ambiance,
c'est
quand même.
C'est sécuritaire aussi, tu sais.
Aussi.
Parce qu'il arrête la circulation complètement. Donc, c'est ça, c'est vraiment, oui, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis je pense qu'ils sont bien fiers de ça. Puis ça fait depuis 2016, je crois, que ça roule, ça. Donc, c'est une ville. Puis qu'est-ce qui est super intéressant aussi, ben, c'est qu'on est à peu près 3 heures de la côte de la mer.
OK.
Donc, on peut se rendre en voiture. Ben, pour nous autres qui viennent du Québec, c'est rare que ça prend juste 3 heures si on est à la mer. Là.
Oui, c'est la mer chaude, là. C'est pas.
C'est ça. C'est exactement.
La
c'est pas les chevilles qui gèlent, là.
Non, c'est ça. C'est la crème de mollet, là.
C'est ça. Alors, ça, c'est super plaisant parce que, bon, tu couches, mettons, à quelque part là-bas, puis tu dis, ah, oh, j'ai oublié quelque chose, il est dans l'auto. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis de voyager aussi dans l'Amérique latine, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins dispendieux que de partir du Québec puis s'en venir ici, ou l'inverse. Donc, au niveau des coûts pour voyager dans les pays autour, c'est beaucoup plus facile économiquement.
C'est la vie les paysages. Le
coût de
vie en général aussi, ça coûte moins cher à l'épicerie?
Oui, je te dirais que c'est à peu près 2/3 de ce que ça me coûterait d'épicerie, mais au Québec, mais avant mon départ. Donc, je sais que les prix ont augmenté au Québec. Ouais. Je ne sais pas ce que ça serait maintenant, mais c'est un petit peu moins dispendieux quand même. L'immobilier est moins dispendieux aussi ici qu'au Québec présentement. Et Guade, c'est une ville qui est entourée de montagnes. Donc, au niveau du climat, on est comme un peu protégé par rapport aux intempéries, comme des ouragans, par exemple, parce qu'on est entouré de montagnes. Et c'est vraiment super beau. C'est ça, on est près de tu sais, je veux dire, on ne fait pas des grandes distances, puis il y a des choses intéressantes là, à voir. Là, puis en même temps, on a une vue, nous, on habite au 21e.
Mm-hmm.
Fait qu'on a une vue là, comme si on était à Montréal avec des buildings et tout, là, comme puis on voit les montagnes en arrière. Puis c'est vraiment spécial. C'est comme j'essaie d'imprégner vraiment ces images-là parce qu'un jour, quand je vais être revenue, ça ne sera pas le même contexte. Là,
ah, c'est ça. Puis là, tu dis un jour qu'on va être revenu parce que le retour est vraiment envisagé. Là. Je veux dire, là, est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est 1 an, est-ce que c'est 2 ans, est-ce que c'est 3 ans? Mais je veux dire, ça ne pourra pas être finalement vous rester là pour toujours.
Bien, en fait, comme je disais, en principe, c'est au mois d'août. Mais mon conjoint essaie de voir, là, il y a des possibilités qu'il puisse avoir un posting ailleurs pour peut-être un court terme comme 2 ans, de 1 à 3 ans. C'est quelque chose d'envisageable. Je ne peux pas nécessairement en dire plus parce qu'il n'y a rien de certain, mais ça se peut qu'on puisse aller dans un autre pays du Sud pour 1 à 2 à 3 ans. Donc, on aimerait bien ça parce que c'est sûr qu'il y a des avantages quand même à l'expatriation. Là. Au niveau économique, moi, je ne pourrais pas me permettre de ne pas travailler présentement en vivant au Québec.
Non, c'est ça.
Alors, je peux me permettre de faire des choses ici que je ne travaille pas depuis 2 ans.
Là, je veux dire, même si tu ne vas pas à la plage à 3 heures ou à la montagne, je veux dire, juste dans la ville où est-ce que tu es, c'est nouveau. Là, c'est, tu es un peu touriste de chez toi.
Oui, oui. Puis, on est vraiment gâtés. Nous, on est dans un complexe où il y a le gym. Je descends au rez-de-chaussée, puis j'ai le gym en face dans le complexe où on est. Il y a 3 tours. Il y a un gym, on a la piscine. Sur le toit, on est vraiment, tout est facilité, là, puis on est vraiment bien installé. Là, je m'en allais où, là? je m'éloigne. C'est ça. Je peux faire des choses que je n'aurais pas fait normalement. Puis là, même que je viens de commencer une maîtrise en septembre dans une université hispanophone.
Oh!
Ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais planifié, oui. Une maîtrise en mindfulness.
Wow! OK, génial.
Oui, ouais, c'est vraiment excitant. C'est vraiment super intéressant. Puis, c'est vraiment pas quelque chose qui était planifié. mais qui est sur mon père. Tu sais, il se présente des choses, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on planifie pas tout quand on s'en va en expatriation comme ça, puis qu'on ne travaille pas. Mm-hmm. On saisit les opportunités. Ouais. Malheureusement, la première année a été très difficile parce que j'ai eu un accident, pas de voiture, là, mais je me suis frappée très fort contre une porte de vitre.
Okay.
Et j'ai été pendant 9 mois en réhabilitation à tous les jours, physio, etc., avec des grosses, grosses douleurs. Fait que mes premiers 9 mois, ils ont été vraiment, vraiment tough, puis j'ai vraiment pas profité du fait d'être ici. Mais depuis le mois de juin, j'en profite vraiment beaucoup. Puis c'est ça, il se présente toutes sortes de choses sur mon parcours et ça, c'est en train de modeler mon futur d'une façon que j'aurais pas prévue. Mais que j'ai les bras ouverts grands à toutes les possibilités. C'est vraiment spécial.
J'adore ça. Vraiment. Non, mais j'adore ça parce que c'est vrai, c'est que là tu es ouverte à vivre des différentes aventures, expériences, opportunités. Tu es prête à ça là. Ça se présente. Là. C'est vraiment génial.
Oui, mais ce que j'aimerais peut-être dire, c'est que dans le fond, là, c'est ça, il y a plein d'affaires belles, mais il faut juste prévoir aussi, il faut juste penser, en fait, qu'il peut se passer des choses comme des blessures ou des accidents, parce que, tu sais, il faut comme avoir un plan B dans ce temps-là. C'est sûr qu'on est chanceux parce qu'on a des soins médicaux de façon facile, là. C'est sûr qu'on a des assurances, donc on va au privé, puis j'ai pas des listes d'attente et tout. J'ai été privilégiée, là. Mais ça, c'est pas quelque chose, par contre, qui était dans mes idées, dans mes plans par rapport à mes 2 années ici, là. Donc, ça a été très difficile, mais, tu sais, il faut comme penser qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver pour, comment je pourrais bien dire ça, pas être trop déçue, parce que c'est sûr que sur le coup, c'est un peu frustrant. Tu te dis, hey, je suis pas venue ici, moi, pour être en réhabilitation. Là, non, c'est ça. J'ai pas fait tous ces entre guillemets, sacrifices de laisser des choses en plan pour me retrouver blessée. Mais oui, c'est des choses qui peuvent arriver, mais en même temps.
Mais ça a forcé une introspection, ça a forcé. Oui. Ça t'a forcé à ralentir, tu sais.
Absolument, absolument. Donc, c'est ça, il se présente toutes sortes de choses, mais je pense que quand on est ouvert, quand on... je ressens beaucoup de gratitude. J'ai le temps, tu sais, j'ai eu le temps dans les 2 dernières années de pouvoir m'arrêter, d'avoir... Parce que quand on vit, là, tous les jours, on travaille, on va au bureau, tout ça, on court, on n'a pas le temps tant que ça de réfléchir. La fin de semaine, c'est d'autres choses, les cours des enfants, le ménage, le lavage, le ci, le ça. Là, moi, j'ai eu la chance d'avoir du temps, effectivement. Puis malgré que je me suis blessée et tout ça, j'ai vraiment une gratitude face à la vie de pouvoir vivre cette expérience-là, que je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre. Et tous les jours, j'ai des belles surprises là, face à cette ouverture-là.
Je pense que c'est ce qu'on appelle un cadeau mal emballé.
Ouais.
Il arrive quelque chose, puis c'est bon, OK, c'est pas super, mais au bout du compte, ça apporte beaucoup. D'ailleurs, ouais. parce que il n'y a pas eu de conséquences
finales. Permanentes.
Permanentes, exactement, c'est le mot que je cherchais. merci. Mais c'est ça, parce que ça t'a quand même permis, ça t'a forcé à ralentir, mais ça t'a quand même permis de retomber éventuellement sur tes pattes, puis de prendre des décisions peut-être plus éclairées sur la suite.
Mais je pense que, tu sais, quand on dit « il n'y a rien qui arrive pour rien », là, c'est une phrase bien, bien plate, c'est comme cliché, mais je me rends compte que c'est vrai.
Ouais.
Parce que ça amène des choses dans ta vie que peut-être autrement tu n'aurais pas vécu, mais qui t'ouvrent des portes, qui t'ouvrent des horizons que tu n'aurais pas envisagé avant. Dans ta vie de tous les jours qui est comme routinière, puis c'est vraiment extraordinaire d'avoir la chance de vivre ça parce que d'une autre façon, ça aurait été métro, boulot, dodo, puis j'aurais pas eu cette espèce de recul-là par rapport à notre vie de famille, notre vie de couple, c'est ça.
Les différentes possibilités, puis je pense que pour le voir, il faut être capable de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit, d'être capable de c'est d'avoir un certain recul. Tu sais, ça, oui. C'est dans le mindset aussi, un peu, que ça se passe.
Justement. Absolument.
Donc, écoute, j'adore ça. Là, on arrive à la fin de l'entrevue. J'ai trouvé ça vraiment génial. Puis j'ai eu l'impression d'avoir fait un petit tour dans ton coin de pays en même temps. Ça nous a ramené à de la gratitude aussi sur l'expérience qu'on vit. Puis sur aussi, je trouve le fait que des fois, tu sais, pas nécessairement sans qu'il arrive un accident ou quoi que ce soit, mais des fois aussi, la conjointe expat, on suit un peu dans toute l'aventure, puis on laisse peut-être une carrière derrière, puis on laisse peut-être, puis on peut avoir l'impression qu'on laisse des morceaux derrière, mais tu sais qu'il faut voir aussi l'autre côté de la médaille qui est tout ce que ça nous amène, tout ce que ça peut nous amener, puis toute la chance qu'on a de pouvoir vivre une expérience comme ça, même quand c'est pas toujours nous qui détenons les rênes du projet en tant que tel au départ.
Oui, puis ça nous fait découvrir des nouvelles personnes avec qui on crée des liens qui vont être là pour la vie.
C'est vrai.
Puis avoir une ouverture avec une nouvelle langue, ça l'amène d'autres possibilités aussi, parce que moi, ce que j'envisage pour l'avenir, si tu me permets.
Oui, absolument.
Dans le fond, au départ, au retour, moi, je devais retourner au travail puis finir ma carrière d'infirmière puis tomber à la retraite puis tout ça. Avec le contexte économique qui a changé, nous, la maison qu'on a vendue, on ne pourrait même pas se la repayer. On ne pourrait pas la racheter parce que ce n'est plus dans nos moyens. Mais on n'a pas fait les sous qu'on aurait pu faire si on l'avait vendu plus cher. Donc, je vais devoir travailler au retour, puis mon conjoint aussi. Mais je ne le prends pas nécessairement mal maintenant. Au début, je la trouvais pas drôle, mais je ne le prends pas nécessairement mal maintenant parce qu'avec la maîtrise que je suis en train de faire en mindfulness, j'avais déjà une formation avant de partir de 90 heures à l'Institut Pleine Conscience appliquée de Montréal. À l'Institut Pleine, ouais, c'est ça. Et puis, dans le fond, je pense qu'avec mon background d'infirmière, puis avec cette formation-là, ça va m'ouvrir d'autres horizons. Et dans le fond, de plus en plus, dans certaines entreprises, ils offrent aux employés ce genre d'atelier-là pour augmenter la qualité de vie, pour diminuer le stress, augmenter la productivité, diminuer l'absentéisme. Il y a plein d'avantages là, à pouvoir profiter de moments comme ça, de méditation et tout. Donc, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'envisage maintenant pour le retour. Et en tout cas, j'ai des projets comme j'en ai jamais eu dans ma vie. Là. J'ai plein d'idées.
Ça va te permettre un pivot dans ta carrière.
Ouais.
Qui va sans doute t'amener une qualité de vie aussi que tu ne pouvais pas nécessairement imaginer en faisant juste terminer le parcours que tu avais commencé comme il se doit au départ.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
Puis voilà. Donc, non, je pense que pour moi aussi, c'est plein de possibilités. Ce beau pivot-là, puis j'ai hâte de voir où ça va aller.
Surtout que toi, tu as vu toute l'incertitude par rapport au projet avant. Donc, je suis contente de pouvoir te dire ça.
Mais je suis très contente de le voir aussi, puis je trouve que ça, justement, ça donne plein de... Je ne veux pas dire d'espoir, mais de, tu sais, pour toutes les femmes qui vont me contacter et me dire hey, moi, je m'en vais, mais là, je ne sais pas, je laisse tout ça derrière, puis après ça, quoi? Puis là, je deviens dépendante. Puis je sais, tu sais, bon, il y a plein d'insécurité par rapport à ça, mais il y a beaucoup à aller chercher aussi à travers cette opportunité-là.
Oui. Parce que c'est une coupure que tu n'aurais pas fait autrement, mais en la faisant, bien, ça l'ouvre d'autres portes.
C'est ça. Mm. On sort de la boîte, mais il y a d'autres choses en dehors.
Exact. Je pense que tu es bien placée pour comprendre, non?
Oui, je sens aussi comme ça. Là, j'arrive, Marie-France, dans mes petites dernières questions de la fin avant qu'on soit coupé dans notre temps.
Oui.
La première question, c'est vraiment random, mais j'aime bien comparer là, les réponses de chacune des différentes expats qui viennent sur le podcast. Est-ce que tu écoutes des séries sur Netflix? Et si oui, quelle est ta meilleure série à vie?
Oui, on en a écouté beaucoup. Maintenant, un peu moins parce qu'on a comme eu un sprint à un moment donné, mais une série que j'aime beaucoup là, puis qu'on est en train de terminer, mais à un rythme moins effréné, c'est en espagnol, par exemple, mais ça s'appelle Café con aroma de mujer.
OK.
Ça se passe dans des champs de café, des recollectrices de café. Et c'est romantique. Là. C'est une super belle histoire où il n'y a pas de. Parce qu'au Mexique, il y a beaucoup de séries de narcos et tout, là. Mm-hmm. Mais non, celle-là, c'est vraiment cool. Fait que ça, c'est une des séries que j'adore, là, puis que je pense que c'est une des plus belles séries que j'ai vues.
Super, on va regarder c'est quoi. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Si oui, c'est quoi le dernier que tu as écouté?
En fait, j'en écoute pas beaucoup. Là, présentement, je manque de temps. Mais le dernier que j'ai écouté, ben, c'est Caro Martinez. Elle fait des podcasts pour l'apprentissage de l'espagnol. Je l'écoutais de façon beaucoup plus régulière avant. Mais c'est des podcasts une fois par 2 semaines. Avant, c'est une fois par semaine où on pratique beaucoup l'audition. Donc, c'est vraiment super. Ça s'appelle Espagnol Automatico.
OK, génial. Est-ce que tu es plus du type livre ou audiobook et est-ce que tu lis présentement? Si oui, quoi?
J'ai pas le temps avec mes cours, mais j'adore lire. Oui, sujet à choisir, ça va être plus un livre, mais même encore là, un livre papier que je peux toucher puis tourner les pages.
OK. Si je te donnais un billet d'avion pour aller n'importe où, tu irais à quel endroit?
Au Costa Rica.
Est-ce que tu penses qu'on est expat ou qu'on le devient?
Oui, je pense que, comme je disais, le goût de l'aventure, on l'a ou on ne l'a pas. Puis c'est correct dans les deux cas. Et, je veux dire, on est tous différents, puis on a tous différentes personnalités, puis c'est ça, c'est correct.
Je pense que c'est comme une petite, c'est peut-être disons, une graine qu'on a en nous, mais qu'il faut l'avoir arrosée pour le savoir. T'sais, il faut comme explorer ça. Si on ne le fait pas, on ne le saura pas.
Exactement. Mais je pense qu'on le sait quand on l'a, puis quand il se présente des occasions pour exploiter cette graine, comme tu dis, la faire grandir, ben c'est génial.
Puis, dernièrement, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre justement ta journey, comme on dit en bon français, par rapport au mindfulness? Est-ce que tu as des références, des endroits où nous envoyer pour suivre ça?
Pas encore,
OK.
parce que j'ai rien de vrai. Tu sais, je suis en processus. Éventuellement, mais non, pas encore.
D'accord.
Mais j'invite tout le monde, par contre, sans nécessairement faire de publicité pour des applications, mais il y a le petit Bouddha, là, comment ça s'appelle? Il y a des applications là, qu'on peut faire. Bambou, c'est ça, petit bambou, merci. Où on peut faire des petites méditations guidées, gratuites. J'encourage tout le monde à faire ça parce que c'est tellement simple, ça coûte rien, puis ça l'apporte beaucoup.
Absolument.
Je le conseille à tout le monde de prendre ce petit temps-là pour soi parce que c'est pas ça ne demande pas autant de temps et d'efforts que, par exemple, faire de l'exercice, mais ça apporte beaucoup de bienfaits.
Ah, je suis entièrement d'accord avec ça. Marie-France Bernard, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé ta belle expérience, tes défis aussi que tu as rencontrés parce que, veux, veux pas, ça fait partie de la vie d'expat. Puis on voit que tous les chemins mènent, je ne veux pas dire à Rome, mais quelque part.
Absolument. Je te remercie beaucoup, Dominique, puis je te souhaite une bonne continuité dans tout ce que tu fais. Puis moi, je t'admire beaucoup. Vraiment, tu es un modèle pour moi depuis plusieurs années.
Ah, ben c'est gentil. Merci, ma France. On garde le contact.
Ça marche.
Restez avec nous pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous aimez le contenu, ce serait vraiment apprécié afin de passer le mot que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer, expat, deux petites barres en bas, maman. Expat maman. Merci!